Nous voici en cette troisième rencontre du catéchisme pour adultes au sein du cycle préparatoire au sacrement de la confirmation. Parmi nous, certains se préparent à recevoir ce sacrement, d'autres l'ont reçu il n'y a pas si longtemps que cela, et d'autres sont peut-être en train de regretter en se disant « Oh, si seulement je l'avais reçu maintenant, je pourrais comprendre des choses que je ne comprenais pas jadis ». Mais cela est une mauvaise façon de se poser les questions, parce que dans la tradition de l'Église, jadis, on baptisait, confirmait, donnait l'accès à la communion, et ce n'est qu'après qu'il y a les grandes catéchèses des pères de l'Église, que l'on appelle adressées aux néophytes, à ceux qui viennent d'être baptisés. Pourquoi ? Car il ne faut jamais oublier que le sacrement, c'est donc l'œuvre de Dieu qui vient agir, qui vient me sanctifier, et il ne faudrait pas vite croire que la connaissance que je peux en avoir serait suffisante. Il s'agit toujours d'un mystère et il s'agit toujours de Dieu qui agit à travers le sacrement, en particulier dans le sacrement de la confirmation. On peut entendre parfois des gens dire « j'ai fait ma confirmation ». Eh bien voilà une profonde erreur. On ne fait pas la confirmation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui sommes le sujet, qui recevons le Saint-Esprit, qui devons nous mettre en avant. Je suis confirmé. Cela est juste. Mais quand on commence à dire « j'ai fait ma confirmation », cela laisse entendre que c'était mon initiative. En revanche, il faut prendre les choses dans le bon ordre. C'est le bon Dieu qui me donne cette grâce, qui m'a donné le Saint-Esprit. Peu importe que l'on ait été baptisé enfant ou que nous nous préparions maintenant, le tout est de répondre à l'appel de Dieu, et ceux qui ont été confirmés pourront vérifier dans les semaines à venir qu'il y a un certain nombre de choses, peut-être dans leur existence, qui ont été dues à cette inspiration, à cette docilité aux inspirations du Saint-Esprit. Avant d'en venir à l'enseignement d'aujourd'hui, qui va nous parler, à proprement parler, du sacrement de la confirmation, je voudrais revenir brièvement sur ce que nous avons étudié la semaine dernière. Nous avions posé cette question, qu'est-ce donc qu'un sacrement ? Nous avions donné un certain nombre d'éléments, je ne vais pas tous les reprendre, mais on m'a posé des questions cette semaine, en particulier sur le sacrement de l'ordre. En écoutant la catéchèse, il est vrai que j'en ai parlé, nous avions vu que dans la vie naturelle, pour prendre l'exemple du tableau que nous avons commenté, un pays, avions-nous dit, avait besoin de chef. Un pays a besoin de chef. L'autorité est nécessaire, de telle sorte que l'anarchie est toujours un leurre. Il y a toujours une autorité, Platon dirait dans la République, même lorsque deux, trois voyous se mettent ensemble, pour opérer leur larcin, il y a besoin d'un ordre, il y a besoin d'une autorité pour pouvoir parvenir à, je ne vais pas cambrioler cette banque, puisque c'est un exemple, voyons les choses en grand, pas seulement prendre le sac de la pauvre grand-mère. Donc un pays a besoin de chef, avions-nous dit dans la vie naturelle, et on mettait en pendant le sacrement de l'ordre. Et dans le tableau, il y a marqué « Le sacrement de l'ordre crée les prêtres qui dirigent le peuple chrétien ». Oui, et les gens qui m'ont posé quelques questions suite à la catéchèse, c'est parce qu'ils écoutent en ce moment, je crois, un certain nombre d'enseignements, ou du moins de conférences, ou de commentaires, de journalistes, ou du pape lui-même qui parle justement du sacerdoce. Alors, le prêtre et son autorité se découlent de trois choses. Il y a tout d'abord une autorité qui est celle des sacrements. Le prêtre, il sanctifie lorsqu'il œuvre dans les sacrements. C'est donc aussi une autorité, plutôt Dieu passe par lui pour donner les sacrements. Le prêtre n'est jamais prêtre pour lui, on parle d'un ministère, c'est-à-dire il est au service du peuple de Dieu qui lui est confié. Il a donc un ministère et une autorité de sanctification. On pourrait le dire un peu rapidement, c'est l'homme des sacrements. Du moins qu'il les donne, et qu'il les reçoit aussi parce que, comme vous, il est baptisé, selon la grande phrase de saint Augustin, « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque ». On comprend bien la subtilité, c'est-à-dire que même l'évêque reçoit le sacrement de la confession pour ses fautes, mais pour vous, je suis évêque, c'est-à-dire j'exerce une autre autorité. Une autorité, donc, je vous ai dit, de sanctification, une autorité également d'enseignement. Le prêtre enseigne, Quand bien même il y aurait dans l'assemblée des professeurs de théologie, des docteurs en théologie ou des gens très érudits, il appartient au prêtre, de par son ministère et de par les grâces qui lui sont accordées, de prêcher, c'est-à-dire d'actualiser les saintes écritures. Il ne s'agit pas simplement de faire un petit commentaire comme ça, cela appartient aussi à son autorité. Bien sûr, le prêtre, là on pense à la prédication, mais lorsqu'il prépare les sacrements, comme nous le faisons ici, ou dans telle autre circonstance, il est également l'homme qui doit donner un enseignement, ou ce qu'on pourrait dire également des conseils. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les munéras, la troisième munéra qui est celle du gouvernement, effectivement. Hein, le prêtre gouverne la paroisse, il est à la tête du conseil économique, à la tête de toutes les institutions, et l'évêque lui-même est, si on peut dire, le prince de son diocèse, c'est-à-dire il est au principe même et des sept sacrements. C'est d'ailleurs pour ça que quand l'évêque vient, on rajoute un septième chandelier sur l'autel et non pas six, parce que les sept sacrements procèdent de l'évêque, mais également la sanctification, puisque c'est non seulement l'évêque qui va ordonner les prêtres, hein, parce qu'il a la plénitude du sacerdoce, mais également lui qui va donner la confirmation, nous verrons pourquoi. Et la sanctification, le gouvernement, et bien sûr l'enseignement qui nous vient a fortiori de l'évêque. Voilà pourquoi hein, l'autorité sacerdotale, que pour des, je crois qu'il faut dire le mot, pour des hérésies de théorie du genre, soit viennent influencer des chrétiens, soit viennent essayer de nous faire perdre la foi, il appartient d'institutions divines que le Seigneur a choisies des apôtres qui étaient tous de sexe masculin, le Seigneur n'avait rien contre les femmes, hein, mais la Bienheureuse Vierge Marie qui était bien plus disposée, elle qui est la Mère de la Grâce, n'était pas ordonnée prêtre, elle a communié elle-même à l'Église naissante, hein, elle a reçu hein, le Seigneur dans la Sainte Communion, dans cette vie chrétienne qui a lieu avec les apôtres après. Donc ce n'est pas une question seulement de dignité, c'est une question de volonté, le Seigneur a choisi ces 12 hommes de sexe masculin pour instaurer le sacerdoce. Voilà. Alors ensuite, si vous voulez, quand on commence à vouloir parler avec des revendications, ben, tout ça c'est un sujet de polémique et la polémique n'entre pas dans un catéchisme. Pourquoi ? Parce que le catéchisme, eh bien, nous nous efforçons de donner la vision cohérente des grands mystères de la foi. Bien sûr, le pasteur que je suis sait bien parfois ce qu'il peut y avoir derrière telle et telle chose, parce que j'entends comme vous un certain nombre de choses, mais dans le cadre du catéchisme, eh bien, c'est celui du disciple qui est à l'école du Seigneur, à l'école de l'enseignement de l'Église. Nous laissons là les quelques polémiques qu'il peut y avoir aujourd'hui vis-à-vis de la théorie du genre, etc. J'ai vu également une affiche qui se voulait très novatrice, avec marqué « Première messe féministe ». Voilà, donc il y aura une... Je ne sais pas si c'est une femme qui va dire la messe, de toute façon ça ne pourrait pas marcher, mais je ne sais pas, ou si c'est un prêtre qu'il y aura des femmes, avec marqué « Prêtresse, prophétesse et reine ». Alors pourquoi ces trois mentions ? Parce qu'elles parlent justement du sacrement du baptême. Au sacrement du baptême, nous avons reçu une onction. Et là, ça introduit un petit peu mon propos vis-à-vis de la confirmation. Nous avons reçu une onction qui nous a configuré au Christ prêtre, au Christ prophète et au Christ roi. Que nous soyons un homme de sexe masculin ou que nous soyons une femme, forcément de sexe féminin, il faut tout préciser aujourd'hui, nous ne sommes pas pour autant prêtresses, non. Nous sommes tous prêtres, prophètes, et roi. Pourquoi ? Parce que nous ne le sommes que par participation à notre Seigneur Jésus le Christ, qui, dans son incarnation, est un homme de sexe masculin. Même la petite fille baptisée, hein, elle est prêtre, prophète et roi. On ne lui dit pas qu'elle est prêtresse, prophétesse et reine, parce qu'elle ne l'est pas d'elle-même, elle est par participation de Jésus Christ. Voilà. Donc ça, c'était juste parce qu'il y a pas mal de choses qui circulent en ce moment et que l'on peut entendre et que je ne voudrais pas que vous sombriez ou que vous soyez tristement influencé par tout cela. Ceci étant dit, nous pouvons commencer maintenant notre leçon aujourd'hui sur le sacrement de la confirmation à proprement parler. Nous allons commencer par une définition. Une définition qui, comme toutes les définitions, a ses limites, mais également ses mérites. La définition est la suivante: la confirmation est le sacrement qui nous donne le Saint-Esprit avec l'abondance de ses dons et nous rend parfaits chrétiens. Je la relis. La confirmation est le sacrement qui nous donne le Saint-Esprit avec l'abondance de ses dons et nous rend parfaits chrétiens. Effectivement, dans le sacrement de la confirmation, nous recevons le Saint-Esprit. Mais une première difficulté se pose. Le tout premier sacrement, celui qui nous communique la grâce, c'est le sacrement du baptême. Et nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils, mais tout autant du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans cette première définition, je voudrais écarter l'idée que nous recevrions le Saint-Esprit à la confirmation parce que nous ne l'aurions pas reçu au moment du baptême. C'est subtil, mais pour que la chose soit juste, alors c'est pour ça que je minore un peu la définition, il faut bien des définitions, mais la confirmation est le sacrement qui nous donne le Saint-Esprit. Effectivement, il y a un don du Saint-Esprit, un don de force du Saint-Esprit dont la présence est confirmée en notre âme, mais elle est profondément liée au sacrement du baptême. Saint Jean Chrysostome le dirait dans les termes les plus vifs, le baptême chrétien est un baptême dans le Saint-Esprit. Voilà. Donc ça, là, c'est déjà important. Il y a vraiment le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi ces deux sacrements, le baptême et la confirmation, sont intimement liés. Saint Cyprien, père de l'Église, à l'époque où les deux sacrements n'étaient pas dissociés dans le temps, mais vraiment dans la même célébration, lui disait la chose inverse en disant « ce sacrement est double, parce qu'il y a bien deux caractères ». Vous vous rappelez que dans les caractères, nous avons vu ça la semaine dernière, dans les sacrements, le caractère est vraiment ce qui va venir distinguer et imprimer une marque. Et Saint Cyprien était étonné de voir que dans son baptême, lié à la confirmation, il y avait deux empreintes. Dans le baptême, je suis enfanté à la vie divine. Je deviens enfant de Dieu. Et dans le sacrement de la confirmation, puisque nous avions vu dans la réalité naturelle qu'on donnait de la force comme de la nourriture, dans la vie naturelle et la vie surnaturelle, et bien voilà que je deviens adulte dans la foi en recevant le Saint-Esprit. Donc je reprends la définition. La confirmation est le sacrement qui nous donne le Saint-Esprit. Maintenant nous comprenons comment il nous est donné. Il était déjà bien là, au moment du baptême. Et au baptême, je suis, le mot est joli, incorporé à notre Seigneur Jésus le Christ. Je deviens membre de son corps et lui est la tête de l'Église. Donc je suis incorporé, je deviens membre de Jésus Christ. C'est à ce titre que je suis prêtre, prophète et roi. Je participe à ces charismes du Seigneur Jésus. Donc, je deviens enfant de Dieu, mais voilà qu'au moment de la confirmation, c'est ce que nous dit aussi la définition à la fin, que ce sacrement nous rend parfaits chrétiens. Alors, parfait, cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on est confirmé, nous menons la vie parfaite, mes enfants, si seulement le bon Dieu l'avait voulu ainsi. Mais cela veut dire que pour être chrétien, il ne faut pas avoir reçu un sacrement, il en faut trois. C'est le seul élément de stabilité. Un tabouret à trois pieds, ça tient. À deux, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est le minimum pour qu'il y ait un peu de solidité. Bien voilà, il faut que je sois baptisé, il faut que j'ai la confirmation. Oui, mais je voulais éviter de dire ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai fait ma confirmation, pardon, que je sois confirmé. Et enfin, que j'ai accès au Seigneur qui se donne à moi dans l'Eucharistie. Donc, ce sacrement de confirmation me rend parfait chrétien au sens où lorsque j'ai ces trois sacrements de l'initiation chrétienne, rien ne me manque. Je suis un chrétien à l'état excellent. Alors c'est Aristote qui dans sa métaphysique a pour le mot excellence cette définition. Une chose est à l'état excellente quand rien ne lui manque. Voilà. Eh bien le chrétien est véritablement un chrétien. Lorsqu'il a reçu ces trois sacrements, il est là à l'état d'excellence. Je reprends encore la définition. La confirmation est le sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, effectivement le Saint-Esprit est communiqué, avec l'abondance de ses dons, et nous verrons dans les enseignements suivants, que l'Esprit-Saint vient donner dans l'âme sept dons. C'est ce que nous disons dans le chant du Veni Sancte Spiritus, qui commence chacune de nos rencontres, donner vos sept dons sacrés. Eh bien voilà quels seront les sept dons sacrés. Nous gardons le mystère, sinon vous ne reviendrez pas. Donc, nous voyons déjà qu'il y a le don de l'Esprit-Saint qui vient avec en plus l'abondance de ses dons. Ce sacrement va me permettre aussi d'être beaucoup plus perméable aux inspirations de l'Esprit-Saint, qui va vraiment agir en nous. L'Esprit-Saint, c'est celui qui poursuit en nous son œuvre de sanctification et qui nous rend parfaits chrétiens, parfaitement chrétiens. Dans les temps anciens, j'ai eu l'occasion de le dire, ces deux sacrements étaient intimement liés, de telle sorte qu'au commencement de la prime Église, ils n'étaient pas séparés. Mais pourquoi est-ce qu'on les a séparés ? Parce qu'il y a quand même une nature différente, ils ne confèrent pas chacun d'eux la même grâce. Le baptême, il donne la première grâce, celle qui nous enfante à la vie divine. La confirmation vient nous donner une seconde grâce, ou plutôt vient augmenter cette grâce, nous donne la seconde grâce, celle qui va venir transformer les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Il va en faire des soldats. Soldats du Christ. Pourquoi soldats ? Parce que par la confirmation, il y a ce don de force, eh bien, qui doit me permettre de lutter pour la foi, de lutter dans les ténèbres de ce monde, de lutter dans le combat de la vie spirituelle, et également de mourir pour la foi. Voilà pourquoi le baptême a comme cette grâce d'enfance, si on peut dire, mais la confirmation a comme cette grâce d'adulte. Il y a cette force qui est donnée, force qui doit aller jusqu'au témoignage de la foi, jusqu'au martyr. Nous n'avons jamais à rechercher le martyr, parce que sinon ça ne serait pas le martyr, nous n'avons pas à le rechercher, mais lorsqu'il se présente à nous, de toute façon on a rarement le choix quand il se présente à nous, mais voilà que c'est l'ultime témoignage qui nous sera demandé, celui qui nous configure presque au plus près au sacrifice de notre Seigneur Jésus le Christ. La tradition rapporte que l'apôtre Saint-Pierre, qui meurt crucifié en l'an 64, au Cirque Maxime à Rome, non loin de la colline du Vatican, a demandé par humilité, ne se sentant pas digne d'être crucifié comme son Seigneur, est-ce que la croix soit inversée. Mais nous voyons à quel point l'apôtre Pierre a suivi le Seigneur près dans son sacrifice. Plus récemment, lorsque nous pensions à Nice, à ces trois chrétiens qui étaient un sacristain et deux chrétiens qui venaient prier à l'église, deux chrétiennes, je crois que c'était deux femmes et un homme, voyez, quand ils ont été ainsi égorgés, voilà. Pareil, quand on pense à l'attentat à l'endroit du père Hamel, il y a un des deux qui a survécu et qui s'était forcé de lutter pour la foi. D'abord le père Hamel qui refuse de se mettre à genoux à l'invocation lancée par les djihadistes. Voyez la force que cela demande. Et tout comme les religieuses et les laïcs qui étaient là, qui ont essayé d'entrer en contact et qui n'ont pas abjuré la foi pour s'en sauver. Parce qu'on sait bien, à un moment donné, c'est plus facile de le dire en temps de paix qu'en temps de persécution, mais puisse le Seigneur nous donner la grâce que nous avons reçue dans le sacrement de la confirmation, nous avons apporté cet ultime témoignage. Voilà aussi pourquoi, non seulement il y a l'abondance des dons, mais ça nous rend aussi parfaits chrétiens, ça nous configure comme des soldats du Christ, parce que nous avons à lutter d'abord dans la vie spirituelle, mais nous avons aussi, nous devons être capables de pouvoir mourir pour la foi. Si on est capable de mourir pour la foi, c'est aussi parce qu'en étant un chrétien adulte, on s'efforce d'entrer dans l'intelligence de la foi. Cela ne veut pas dire, mais vous l'incarnez, cela ne veut pas dire qu'on ne va plus au catéchisme parce qu'on serait trop âgé, il n'y a pas d'âge pour comprendre et méditer, et c'est une erreur profonde que de croire que le catéchisme est réservé aux petits-enfants. Au contraire, la catéchèse qui nous permet de rentrer dans les mystères de la foi, nous en avons besoin à tout âge pour avancer à la rencontre du Seigneur. Alors, l'institution de la confirmation. Nous avions vu la semaine dernière que ce qui fait un sacrement, c'est qu'il a été institué par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous n'avons pas le récit à proprement parler de l'institution du sacrement de la confirmation. En revanche, c'est une pratique apostolique qui revient régulièrement dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres. Je vais vous lire un passage des Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 14 à 17. Chez vous, vous pourrez reprendre un peu ce texte-là, le voir dans sa globalité peut-être, du chapitre. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, donc des Samaritains, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ben dis donc, déjà j'ai envie de dire bienheureux Samaritains qui ont accueilli la prédication de l'apôtre Pierre et celle de Saint Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux afin que l'Esprit-Saint leur fût donné. Car il n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit-Saint. Voilà. Donc nous prions pour que ceux qui ne sont pas baptisés, bien que l'Esprit-Saint tombe sur eux, selon l'expression de Saint-Luc dans les Actes des Apôtres. On voit bien, hein, voilà que ces Samaritains au commencement ont reçu le baptême de Jean le Baptiste. Alors après, on leur dit, ah ben non, le baptême de Jean-Baptiste n'est pas suffisant, puisque le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême qui préparait à celui qui devait venir après lui, hein, le Christ lui-même. Donc on reçoit le baptême. Mais après cela, qu'est-ce que nous voyons? Bien voilà, on a entendu les apôtres qui imposent les mains pour que l'Esprit-Saint tombe sur eux, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment habités de l'Esprit-Saint. Donc, il y a d'autres exemples hein, dans le Nouveau Testament, de cela, et dont on voit également un geste qui est celui de l'imposition des mains. Hein, on va parler de l'onction tout à l'heure, mais pour ceux qui ont reçu le sacrement du baptême, de la confirmation, il y a l'imposition des mains de l'évêque successeur des apôtres, qui est un élément important. Donc, même si nous n'avons pas dans les Écritures le rapport de l'institution du sacrement de la confirmation, c'est un véritable sacrement institué par notre Seigneur Jésus le Christ. Je prends peut-être un autre exemple. Lorsque Saint Paul va à Éphèse, après avoir baptisé, qu'est-ce que l'on nous dit ? Actes chapitre 19, versets 1 à 6, que Paul imposa les mains pour faire descendre l'Esprit-Saint sur eux. Donc vous voyez qu'il y a quand même bien, tout à l'heure j'ai été très sévère sur ma définition en vous disant c'est le sacrement qui donne le Saint-Esprit, parce que je ne voudrais pas que l'on pense que nous ne l'avions pas déjà un peu reçu au sacrement du baptême, et sa présence vient d'être là pleinement confirmée. Donc ça c'est déjà voilà, un élément important. Dans la tradition de l'Église, il y a plusieurs courants qui se sont justement opposés à l'institution du sacrement de la confirmation, qui pensait que c'était une pure invention de l'Église. Alors ce sont des hérétiques comme les albigeois, des hérétiques plus généraux comme les protestants, et également quelques modernistes. Mais enfin voilà, le sacrement de la confirmation n'est pas une invention pure de l'Église, hein, elle la reçoit de la tradition, comme l'attestent notamment quelques récits du Nouveau Testament, même si nous n'avons pas en tant que tel le récit d'institution comme nous l'avons pour l'Eucharistie par exemple. La semaine dernière, alors que nous parlions justement des sacrements, on voyait qu'il y avait plusieurs éléments, qu'il fallait un élément matériel. Quelle est la matière du sacrement ? Eh bien, le geste du sacrement de la confirmation, que dans la tradition orientale on appelle la chrismation, et dans le mot chrismation on retrouve le mot Christ. Et qu'est-ce que veut dire Christ ? Ça veut dire loin. Que veut dire le mot oint, O-I-N-T, c'est celui qui a reçu l'onction. Le chrétien est donc appartient au Christ, mais parce qu'il a reçu également l'onction. Et donc l'élément matériel, cela va être une onction qui est faite non pas avec n'importe quelle huile, avec le Saint-Crème, comme au jour du baptême, hein, qui est un mélange d'huile d'olive avec lequel on rajoute un baume, c'est-à-dire un parfum. C'est une huile parfumée qui sent bon. Hein, les autres huiles, pour le sacrement des catéchumènes et des malades, il n'y a pas l'ajout du parfum, hein, c'est le Saint-Crème. Voilà. Donc, du coup, il va être bien sûr consacré, nous allons y rentrer bientôt, dans la semaine sainte, hein, au jour du jeudi saint. Hein, alors, pour des raisons pratiques, dans bien des diocèses, la messe chrismale est déplacée à un autre jour que le jeudi, mais il faut bien penser, hein, que c'est le jeudi matin, normalement, que l'évêque, hein, au jour même donc, de l'institution du sacrement de l'ordre, du sacrement de l'Eucharistie, hein, que ces huiles sont consacrées. Donc voilà quel est l'élément matériel, il va falloir du Saint-Crème. Hein, voilà le Saint-Crème que l'évêque consacre chaque année en vue des sacrements, donc ceux qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation peuvent assister à la messe chrismale parce que l'huile qui sera consacrée par l'évêque sera celle qui servira au moment de leur onction. Donc le Seigneur a choisi de l'huile pour donner ce sacrement. Alors dans la vie naturelle, puisque nous avions vu ça la semaine dernière, hein, il y avait la vie naturelle, la vie surnaturelle. Dans la vie naturelle, eh bien, l'huile sert à trois choses en général. La première, je pense que nous l'avons oubliée, mais l'huile sert à éclairer. Rappelez-vous la parabole des jeunes filles, hein, avec les lampes à huile, hein, qu'il faut tenir ces lampes allumées, et au milieu de la nuit, alors qu'elles attendent l'époux, voilà que les cinq vierges prudentes, celles qui avaient amené de l'huile en réserve, elles peuvent rallumer leurs lampes, c'est-à-dire rajouter de l'huile, parce qu'il faut un certain niveau d'huile aussi pour que la lampe puisse s'allumer, et que les vierges folles, elles, n'ont pas pris d'huile. Et elles leur disent « Mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Et elles disent qu'elles ne donnent pas. Alors on pourrait dire mais qu'elles ne sont pas généreuses. Mais ce n'est pas une question de manque de générosité. C'est que ça ne pourrait pas suffire pour elles et pour nous. Je prends des fois l'exemple comme cela pour les enfants en disant c'est comme pour une lampe électrique. Enfin électrique, oui. Il vous faut trois piles. Alors je veux bien que vous en prêtiez une à quelqu'un d'autre. Mais vous, il vous en faut trois pour qu'elle marche. Donc ce n'est pas une question de manque de générosité. Hein, le Seigneur la veut louer justement les vierges prudentes, celles qui sont d'abord... en train de veiller pour attendre l'époux et qui peuvent avancer à sa rencontre avec la lampe allumée. Donc vous voyez, l'huile, c'est déjà, hein, ça sert à éclairer. De même, l'huile sert à nourrir. Vous avez entendu dans les Saintes Écritures combien toujours on nous parle de l'huile, mais également à guérir. Hein. Ce sont des pays où il fait extrêmement chaud et il n'est pas, anodin de soindre le corps d'huile. Hein, justement pour nourrir la peau. Donc le Seigneur a choisi l'huile qui sert donc à éclairer, à nourrir, à guérir. Pourquoi ? Eh bien parce que la grâce de la confirmation est comme pour le chrétien une puissante lumière. La lumière du Saint-Esprit nous est donnée pour la direction de toute sa vie. C'est un principe de force, hein, puisque c'est, on dit l'huile c'est aussi pour nourrir, c'est un principe de force, je vous dis, hein, l'Esprit-Saint nous est donné comme une force particulière, hein, pour un accroissement spirituel qui, d'enfant, dans la foi, nous fait devenir véritablement des hommes. C'est également pourquoi le Seigneur prend de l'huile, et bien parce que c'est un remède puissant contre les blessures du péché originel, des blessures qui demeurent, hein, même après avoir reçu le baptême. Enfin, je vous ai dit que dans ce Saint-Crème, il y a cette bonne odeur, mais ça manifeste aussi que le chrétien, il est comme embaumé, nous avons une égyptologue, embaumé, mais vivant, à la différence des momies, mais vivant, embaumé, hein, du Saint-Esprit, hein, avec cette phrase, souvenons-nous de Saint Paul, qui nous dit que nous devons porter la bonne odeur du Christ. Hein, voilà, donc c'est tout ça est lié. Alors il y a donc ce geste de la confirmation qui vient, hein, dont l'évêque avec son doigt va venir tracer une onction, un signe de croix sur notre front, avec également, hein, au préalable l'imposition des mains, comme nous avons entendu que l'apôtre Pierre et Jean ont fait aux Samaritains pour communiquer le Saint-Esprit. Il va y avoir bien sûr une phrase qui va être prononcée par le ministre. Alors, je vais vous lire ceci, c'est du compendium du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 267. Quel est le rite essentiel de la confirmation ? Le rite essentiel de la confirmation est l'onction avec le Saint-Crème. On comprendra maintenant ce que là veut dire le verbe « oindre » et l'onction, « ondoyer ». Donc, avec le Saint-Crème, il s'effectue par l'imposition des mains par le ministre qui prononce les paroles sacramentelles propres au sacrement. En Occident, cette onction est faite sur le front des baptisés. On précise sur le front des baptisés parce que dans la tradition orientale, Il y a les onctions qui sont faites de mémoire sur le front, sur les yeux, sur le nez, sur la bouche, sur les oreilles, et je pense sur la poitrine et dans le dos. Voilà, pour bien manifester ce caractère d'onction. Chez nous, c'est plus sobre de ce point de vue-là, c'est fait sur le front. Donc, en Occident, cette onction est faite sur le front des baptisés avec ces paroles, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Vous voyez bien qu'il y a bien l'idée quand même que le Saint-Esprit nous est donné, hein, il y a le don de Dieu. Ah ben voilà, c'est ce que continue le catéchisme. Dans les églises orientales de rite byzantin, l'onction est faite aussi sur d'autres parties du corps avec la formule « Je te marque du don de l'Esprit Saint ». Voilà. Si cela vous intéresse, vous avez tout ça dans le catéchisme de l'Église catholique qui développe de façon plus abondante cette réalité-là. Donc voilà un peu hein, le signe sensible, pourrions-nous dire, de la confirmation, puisque c'est ce dont nous avions parlé la semaine dernière. Hein, ce signe de la croix aussi qui est tracé hein, nous dit bien que le confirmant, donc celui qui reçoit hein, ce sacrement, est désormais soldat du Christ. La croix, c'est comme son étendard. Hein, Saint Paul nous le dit, hein, je mets ma fierté dans la croix du Seigneur Jésus-Christ et je n'ai pas à rougir de la croix. Eh bien justement, c'est aussi l'un des dons de la confirmation qui est celui de ne pas rougir, d'avoir la foi hein, et d'oser à temps, mais surtout à contre-temps, mes enfants, ne nous l'aurons pas, à temps et à contre-temps, eh bien de porter hein, haut le témoignage chrétien. Quels sont donc les effets de la confirmation ? Ah oui, il faut quand même bien qu'il y ait des effets, sinon ça ne sert à rien de le faire. Eh bien, comme le baptême, la confirmation va avoir un triple effet. On va recevoir la grâce sanctifiante, la grâce sacramentelle, qui va aimer. Nous allons avoir imprimé en nous un caractère indélébile. Je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de sacrements qui donnent justement un caractère. Le sacrement du baptême et la confirmation sont ceux qui vont nous donner le plus communément un caractère. Et puis, il y a également pour les prêtres le caractère dans l'onction sacerdotale. Donc, la grâce sanctifiante, la confirmation... elle ne va pas donner la première grâce de sanctification que j'ai reçue au baptême, mais elle va l'augmenter. Voilà, on peut prendre une image. Le baptisé, il est dans un bateau, dans une barque, très bien, il est confirmé, j'ouvre la voile. Et là, on comprend que le souffle de l'esprit, on a une meilleure prise au vent, si vous voulez, on peut avancer plus vite en direction de la vie éternelle. Ça, c'est, je crois... une image intéressante, voilà, je suis dans la barque, embarqué avec le Christ vers la vie éternelle, mais avec la confirmation, j'ouvre la grand voile avec les dons de l'Esprit Saint, voilà que c'est beaucoup plus facile. Alors, le mot facile là aussi n'est peut-être pas idéal dans toute situation, mais enfin, voilà que la vitesse du moins est plus grande, l'accroissement spirituel est plus important. Par le baptême, donc, nous recevons la vie surnaturelle, mais nous ne sommes encore que des enfants, je l'ai dit. La grâce de la confirmation va faire de nous des chrétiens vraiment adultes. La grâce sacramentelle, on avait vu, la grâce sacramentelle, c'est la grâce qui est propre à un sacrement. S'il n'y avait pas de grâce sacramentelle, c'est-à-dire de grâce propre à un sacrement, on n'en aurait pas sept. Ça suffirait de recevoir un seul sacrement et on les aurait toutes ces grâces. Non. Il y a une grâce spécifique. Quelle est-elle ? Elle consiste dans le don de force. Voilà que je suis fortifié dans ma foi. Alors bien sûr, pour recevoir un sacrement, il faut aussi, ça implique du sujet qui reçoit la confirmation, un certain nombre d'aptitudes, un certain nombre de prédispositions, ce qu'on pourrait appeler l'état de grâce. Alors, oui, il faut que je me confesse, il faut que je m'efforce de vivre selon l'Évangile pour pouvoir recevoir ce sacrement et pour que celui-ci porte du fruit. Et quand bien même j'aurai été confirmé et qu'ensuite j'ai commis de graves péchés, mais il faut bien que dans le sacrement de la confession, non seulement eh bien, je demande le pardon de mes péchés, mais va m'être accordée cette grâce de persévérance dans le bon combat, et voilà que je vais de nouveau être beaucoup plus perméable à la grâce et beaucoup plus réceptif aux intuitions. Parce que ça, c'est de cet ordre, les effets de la confirmation, de ces intuitions, de ces inspirations, de ce à quoi mon âme aspire vis-à-vis du Saint-Esprit, qui est là, nous dit le Seigneur, pour vous conduire vers la vérité tout entière. Voilà. D'où le fait qu'il faut le recevoir avec intérêt. Alors, je vous parlais des dons du Saint-Esprit, puisque on parle là de la grâce sacramentelle. Là. Donc, il y a le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de force, le don de science, le don de piété et le don de crainte de Dieu. Nous n'allons pas développer aujourd'hui chacun des sept dons, mais nous le ferons pour savoir en quoi d'abord il s'agit de dons et qu'est-ce que cela signifie. Enfin, le sacrement, donc, après avoir vu rapidement, je le concède, la grâce sacramentelle, le caractère, eh bien oui, le caractère, quel est-il dans le sacrement de la confirmation? Eh bien, dans mon âme est imprimé le fait que non seulement j'appartiens au Christ, mais que je suis comme son soldat parce que je dois lutter. Lutter dans le combat de la foi. La foi, avoir la foi, cela ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il peut y avoir véritablement un combat, le combat spirituel. On peut penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à cette nuit de la foi qu'elle a connue, c'est-à-dire quand le Seigneur ôte toute grâce sensible. Ou encore Mère Thérésa, qui a dans des lettres aussi a pu manifester cette nuit de la foi. C'est-à-dire que le Seigneur peut nous donner tel ou tel jour, telle grâce dans la communion, telle grâce à tel moment donné où on a senti plus particulièrement sa présence. Mais le Seigneur peut aussi les retirer pour exciter notre persévérance. Voilà, vous savez, c'est la grande école du prophète Job. Dieu a donné, Dieu a repris, en toute chose que le nom de Dieu soit béni. Il peut nous donner, et quand il le fait, c'est pour nous encourager, qu'il nous donne des grâces sensibles à tel moment. Voilà, des petits anniversaires que nous pouvons avoir peut-être dans notre vie spirituelle personnelle de tel moment où, vous voyez, pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a eu cette fameuse conversion dans la nuit de Noël. Elle en a toujours gardé mémoire. Elle a été guérie en voyant la Vierge Notre-Dame des Victoires lui sourire. Elle a été guérie. Donc, il y a comme ça. Dans chacune de nos vies, il faut y être attentif. Des moments où la grâce de Dieu se soit fait plus sensible, parce que là, le Seigneur veut vraiment comme nous toucher du doigt pour manifester qu'il est là. Mais dans la vie spirituelle, il peut aussi également y avoir cet épisode de combat spirituel. Donc voilà que déjà, le caractère indélébile qui nous est donné dans la confirmation, c'est celui de soldat pour pouvoir lutter d'abord dans le combat de la foi. Pour pouvoir lutter, vous avez vu qu'il y a le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de science. Aussi pour lutter contre les ennemis de la foi. Rappelez-vous, dans l'Évangile, le Seigneur dit « Ne vous inquiétez pas, lorsqu'on vous demandera compte de votre foi, l'Esprit-Saint viendra parler au moment. Que dire, quoi faire, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise dans telles circonstances ? » Alors on ne va pas imaginer se faire décapiter ou en essayant de dire « Est-ce que comme Sainte Cécile, je vais pouvoir commencer à chanter un cantique au moment où... » ou un non sans humour comme Saint Laurent sur son grill disant « Je crois que cette face est assez cuite, vous pouvez retourner. » Alors voilà, bon. Mais cela veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que la foi maintenant, bien sûr elle concerne les évêques, elle concerne les prêtres, elle concerne les filles, mais en tant que fidèle, j'ai véritablement une responsabilité, je suis un chrétien adulte, je dois donc être capable de rendre compte de ma foi. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière dans le fait d'être soldat? Cela veut dire aussi qu'au sacrement de la confirmation, nous sommes véritablement envoyés en mission. L'Esprit-Saint qui est donné par le Christ ressuscité au jour de Pentecôte aux apôtres, dans cette effusion profonde que font les successeurs des apôtres, il communique l'Esprit-Saint dans ce sacrement de la confirmation pour que nous soyons, comme eux, envoyés à travers le monde, dans toutes les langues, annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Il ne faudrait pas croire, faussement, que seuls les prêtres sont missionnaires. Non, le chrétien, de par son baptême, est missionnaire, et voilà que c'est quand même bien lié au sacrement de la confirmation. Donc je suis soldat du Christ parce que je dois lutter dans le combat de la foi. Qu'est-ce que nous a dit le Seigneur au commencement du carême ? Prière, jeûne, aumône, mes enfants. Voilà. Donc il y a un combat. Et puis, contre les ennemis de la foi, alors ça peut être avec l'intelligence, je ne dis pas qu'on prend des kalachnikovs, qu'on va se faire des ceintures explosives. Là, vous êtes trompé de maison. C'est pas la maison. C'est pas le genre de la maison, comme on dit. Mais, au contraire, c'est avec son intelligence qu'il va falloir, avec l'intelligence, sachant que Saint Paul nous dit toujours cette phrase essentielle, la vérité se fait toujours dans la charité. Parce qu'on peut avoir des fois des façons d'annoncer la vérité qui ne peut pas être rendue audible par ceux qui l'entendent. Ah, mais je leur ai dit la vérité. Oui, mais la vérité se fait dans la charité. Il ne faut quand même pas oublier que même si toute vérité est bonne à dire, il y a quand même la façon aussi de la dire, hein, qui nécessite parfois un accompagnement. Le Seigneur envoie les apôtres deux par deux, etc. Donc voilà aussi que je vais devoir, c'est ça aussi ce caractère indélébile, annoncer l'évangile avec courage. Et ce courage, eh bien, nous est donné également par ce don de force qui nous vient de Dieu, le Saint-Esprit. Pour terminer, ou même pourrions-nous dire pour les devoirs de la semaine prochaine, maintenant que vous savez que vous êtes des chrétiens adultes dans la foi, je vais pouvoir vous donner des devoirs maintenant. Non, je voudrais vous lire le résumé du catéchisme, du compendium. Vous savez qu'il y a le catéchisme pour l'Église catholique, et puis il y a des résumés. Eh bien là, je vous lis maintenant ensemble là, le résumé, c'est des choses que nous avons dites ou pas. Numéro 265, quelle est la place de la confirmation dans le dessein divin du salut ? Ça commence bien, je n'en ai pas parlé, mes enfants. Donc vous voyez qu'il faut bien relire des choses. Dans l'Ancienne Alliance, donc dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé le don de l'Esprit du Seigneur au Messie. Oui, le Messie devait être celui qui avait reçu l'onction. Hein, c'est ainsi que Jésus, entrant à Nazareth, dans la synagogue, prend le livre des Écritures et lit le passage « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, la libération, etc. » Et c'est là où nous assistons à la plus courte homélie du Seigneur Jésus, voire même de l'Église, mais en plus elle est efficace en elle-même. C'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Point. Ainsi soit-il, mes enfants. On aimerait parfois des homélies courtes. Mais tout le monde n'est pas le Seigneur Jésus pourra être l'accomplissement des saintes Écritures. Donc, nous avons là, hein, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé, hein, le don de l'Esprit du Seigneur au Messie attendu, mais aussi qui serait étendu à tout le peuple messianique. Donc tout le peuple d'Israël, mais le nouvel Israël étant l'Église, il fallait bien que cet esprit soit communiqué à l'ensemble du peuple. Voilà ce qui se passe de façon manifeste pendant le sacrement de la confirmation. Les apôtres le reçoivent à la Pentecôte, hein, et annoncent les merveilles de Dieu. Par l'imposition des mains, ils transmettent aux nouveaux baptisés le don de l'Esprit-Saint lui-même. Tout au long des siècles, l'Église a continuellement vécu de l'Esprit-Saint et l'a transmis à ses fils. Là, qui remet chaque chose à sa place. 266. Pourquoi parle-t-on de la chrismation ou de la confirmation ? On dit chrismation dans les églises orientales, qui veut dire chrismation avec le saint miron, qui veut dire le saint crème. Oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure, dans chrismation, là, on va vraiment parler du fait de recevoir l'onction, alors que nous, confirmation, on se situe plutôt dans le fait que le don de l'Esprit-Saint est pleinement confirmé au moment du baptême. On l'appelle confirmation parce qu'elle confirme et renforce la grâce baptismale. Je veux dire que je ne me suis guère éloigné de la réponse. 267. Quel est le rite essentiel de la confirmation ? Je l'ai lu tout à l'heure, je ne le relis pas à l'instant. 268. Quel est l'effet de la confirmation ? L'effet de la confirmation est l'effusion particulière, particulière au sens où elle vient dans moi, l'effusion particulière de l'Esprit-Saint, comme à la Pentecôte. Cette effusion imprime dans l'âme un caractère indélébile, on l'a vu, et elle augmente la grâce baptismale. La première grâce que j'ai reçue est augmentée. De ma barque, j'ouvre les voiles. Elle unit plus fermement au Christ et à son Église. Je n'ai peut-être pas trop insisté sur « et à son Église » à ce moment-là. Si dans notre tradition latine, c'est l'évêque qui vient donner le sacrement de la confirmation, c'est aussi pour manifester combien je suis adulte et combien je suis aussi envoyé par l'évêque. Il y a vraiment ce lien plus intime. Je ne suis pas un fidèle perdu. L'évêque m'a confirmé, successeur des apôtres, il m'a envoyé. Voilà, il m'envoie. J'ai perdu ma ligne, bien sûr. Le lien à l'Église, elle renforce dans l'âme les dons de l'Esprit-Saint. Elle confère une force particulière pour témoigner de la foi chrétienne. Qui peut recevoir ce sacrement ? Bonne question. Toute personne qui a déjà été baptisée peut et doit, puisqu'on le peut, le recevoir, et cela une seule fois, puisqu'il imprime un caractère. Tout sacrement qui donne un caractère n'est reçu qu'une seule fois. C'est pourquoi on est baptisé qu'une seule fois, confirmé qu'une seule fois, et ordonné prêtre qu'une seule fois. Voilà. Pour recevoir efficacement, ben, le baptisé doit être en état de grâce. Grande question posée à Sainte Jeanne d'Arc pendant son procès. Êtes-vous en état de grâce ? Alors la pauvre enfant, si elle répond oui, on va la dire orgueilleuse. Et si elle répond non, pécheresse. Et voilà que l'Esprit Saint lui a inspiré la bonne réponse. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus, quand on vous demandera de rendre compte de votre foi, quelle est la grande réponse de Sainte Jeanne d'Arc ? Si je suis dans l'état de grâce, que Dieu m'y laisse. Si je n'y suis pas, qu'il m'y mette. Voilà comment déjouer le piège, un peu comme dans l'Évangile ce dimanche, où est-ce que le Seigneur va être pour la lapidation de Moïse ou est-ce qu'il va contredire la loi de Moïse ? Et voilà que le Seigneur déjoue. N'entre pas dans la polémique. Il y a beaucoup de choses dans notre monde actuel où on ne devrait pas entrer dans des polémiques, parce que qu'est-ce que c'est la polémique finalement ? La polémique, c'est un paravent pour nous empêcher de véritablement penser sur les différentes choses. On va brandir une polémique pour éviter d'avoir à penser. Et en plus, on se pense avec orgueil un pays démocratique dans lequel on est intelligent parce qu'on a des universités et des ceci et des cela, alors qu'en fait, il n'y en a jamais eu autant d'idéologie et de manque de débat. Je ferme la parenthèse, vous voyez de quoi je parle. Qui est le ministre de la confirmation ? À l'origine, le ministre en est l'évêque. Ainsi est manifesté le lien du confirmé avec l'Église dans sa dimension apostolique. Apostre, ça veut dire envoyé. Ben voilà que quand l'apôtre me confirme, je suis également à travers lui envoyé. Pas sans lui. C'est mon pasteur, je suis sa brebis. Et il doit veiller à l'orthodoxie de la foi, à sa catholicité, à son universalité. Mais je suis envoyé. De telle sorte que quand on entend parler aujourd'hui de la mission, parce qu'il est urgent, ben, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Alors on a précisé à l'origine, hein, parce qu'il peut y avoir des exceptions, l'évêque peut déléguer un prêtre à donner le sacrement de la confirmation. Quand c'est le prêtre qui confère ce sacrement, comme cela est habituellement le cas en Orient et dans des circonstances particulières en Occident, le lien avec l'évêque et avec l'Église est manifesté par le prêtre, collaborateur de l'évêque, et par le Saint-Crème consacré par l'évêque lui-même. Vous voyez que c'est quand même, il y a quand même un rapport à l'Église. Puisque je suis envoyé, je ne peux pas être envoyé indépendamment de l'Église à laquelle j'appartiens. Vous n'avez plus qu'à étudier toutes ces définitions par cœur, mes enfants. Bonne semaine !